9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La guerre continue de faire rage en Ukraine. Alors après l'aspect stratégique avec Frédéric Ancel, l'aspect tactique avec Cédric Mass, c'est à l'aspect économique que l'on va s'intéresser aujourd'hui. On va le faire avec un spécialiste de la guerre économique. Ali Laïdi est en direct avec nous ce matin. Je recevrai ensuite Nicolas Bouzou qui milite pour un libéralisme à la française et l'historienne Myriam Chopin qui vient d'écrire la toute première histoire de la pilule. Jamais quelque chose d'aussi minuscule n'avait provoqué d'aussi grands changements.
Europe 1.
Ali Laïdi, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes chercheur au CR451, le laboratoire de recherche de l'école de guerre économique, et vous êtes l'auteur d'une histoire mondiale de la guerre économique qui est désormais en poche. C'est justement sur l'aspect économique de la guerre en Ukraine que je voudrais évoquer avec vous. On s'aperçoit que tout ce que nous échangeons, tous nos échanges économiques au fond, peuvent être utilisés comme une arme contre nous. Les Russes sont fortement impactés, mais nous aussi.
Alors c'est vrai que dans l'histoire, ça n'a jamais eu autant d'importance, les relations économiques, dans une configuration d'un affrontement militaire sur le terrain. On sentait, à partir de, même on peut remonter jusqu'à la Révolution française, on sentait que l'économie pouvait avoir un rôle très important dans les affrontements. Vauban disait lui-même que ne parvenant pas à conquérir militairement la Grande-Bretagne, on pourrait le faire en s'attaquant à leur commerce et notamment à leurs navires, d'où le concept de guerre de course qui a été mis en place par Colbert en 1661. Donc oui, là, on s'en aperçoit de manière beaucoup plus forte parce qu'il s'agit d'un affrontement entre deux pays, dont un pays qui dépose, qui possède l'arme nucléaire, qui est une des principales puissances et qui est présente au Conseil de sécurité. Donc on ne peut pas directement faire la guerre à ce pays. Donc la réponse, c'est les sanctions économiques.
Et ces sanctions peuvent éventuellement se retourner contre nous. On le sait avec l'augmentation des prix du pétrole et du gaz qui nous rappelle la crise de 73, une époque où le baril de pétrole avait flambé au sens évidemment symbolique du terme.
Là encore, si on reprend l'histoire des sanctions, d'un point de vue académique, on reconnaissait tous que les sanctions n'avaient absolument aucun impact sur un pays pour l'obliger à modifier sa stratégie, sa politique, etc. Référence, là, on est dans la 60e année des sanctions contre Cuba, par exemple, et le régime de Cuba persiste. Les sanctions contre l'Iran n'ont pas vraiment fonctionné. Là, il y a quelque chose de nouveau. D'abord, c'est le caractère massif des sanctions, vraiment tout azimut d'une part, et d'autre part le fait que c'est la première fois que des sanctions massives sont appliquées à un pays du G8, puisque je vous rappelle que la Russie faisait partie du G8, et c'est la première fois que autant de sanctions sont appliquées à un pays qui est quand même entre la 11e ou 12e puissance économique du monde en termes de PIB. Donc forcément, il y a un retour de bâton quand on applique des sanctions aussi dures vis-à-vis d'un pays qui compte économiquement pas autant que Cuba, que le Soudan, que l'Iran, que la Syrie, etc., qui ont eu affaire à un certain nombre de sanctions ces dernières années.
Alors au-delà de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz provoquée par cette guerre, pas par les sanctions mais par la guerre, qui vont donc augmenter le prix chez nous des transports et de l'électricité, il va y avoir l'augmentation du prix du blé, du maïs, donc du poulet et du porc qui sont nourris au blé et au maïs, donc des œufs et de la charcuterie, de la farine, donc des viennoiseries, des biscuits. Il va y avoir une augmentation de l'huile de tournesol. 78% des exportations mondiales viennent de Russie et d'Ukraine. Donc de la bière et du whisky, car c'est avec de l'orge que l'on fabrique la bière et le whisky. Et l'orge, c'est 30% des exportations mondiales viennent de Russie et d'Ukraine. Tout ça va s'accumuler.
Mais bien sûr, c'est une réaction en chaîne. À partir du moment où vous touchez les deux principaux entrants de l'agriculture, c'est-à-dire l'énergie, le pétrole ou le gaz pour faire fonctionner une ferme, et les intrants phytosanitaires, c'est-à-dire les engrais, et là aussi, la Russie est un des acteurs principaux dans la fabrication d'engrais. À partir du moment où vous touchez ces deux secteurs-là, eh bien, en réaction en chaîne, eh bien, on va avoir des augmentations de prix depuis la production jusqu'à notre assiette en passant par la distribution. C'est très clair qu'il faut s'attendre à ça, d'où la manière dont nos dirigeants nous indiquent qu'il va également falloir souffrir et accepter de souffrir par rapport aux sanctions impliquées à la Russie.
Mais alors en Occident, on a longtemps cru que le commerce, et là on voit bien qu'on a eu beaucoup de commerce avec la Russie, comme la Russie avec l'Ukraine et l'Ukraine avec nous, on a longtemps cru que le commerce était un bon moyen d'éviter la guerre. Ça n'est pas le cas.
Oui, bah, vous savez, chez nous, ça remonte à Montesquieu, il y a plus de 3 siècles, hein, qui nous expliquait que le commerce adoucit les mœurs. À partir du moment où deux parties commercent entre elles, il y a fort peu de chances qu'il y ait la guerre. Mais on a oublié également que dans le commerce, il y avait aussi une dimension polémologique, il y avait aussi une dimension de violence. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui, d'où le fait qu'un certain nombre de nos responsables politiques utilisent des concepts sans en comprendre exactement le sens. Quand le ministre de l'économie parle de mener une guerre économique contre la Russie, c'est une ineptie. Quand il parle de détruire l'économie russe, c'est une ineptie. L'objet des sanctions ne vise pas à détruire l'économie russe. L'objet des sanctions vise à inviter, à presser le président Poutine pour qu'il revienne à la table des négociations et qu'on trouve ensemble une solution politique à ce conflit. Vouloir détruire l'économie russe, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui que on comprenne ce que signifient vraiment un certain nombre de termes comme la guerre économique et on comprenne quelle est la place exacte de l'économie dans le monde. Mais en tout cas, l'économie n'a jamais échappé à une part de violence. Le champ politique n'a pas le monopole de la violence comme on le constate hélas aujourd'hui.
Ali Laïdi, restez avec nous. On fait une pause. On se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Ali Laïdi, l'auteur de l'histoire mondiale de la guerre économique qui est désormais en poche. On voit toutes les sanctions contre les Russes. Hein, ça va on a bloqué les réserves d'argent à l'étranger, on a saisi les avoirs des oligarques, on a bloqué les transactions financières, on a exclu les banques russes du système SWIFT. Les USA ont décrété un embargo total sur les importations de pétrole, de gaz et de charbon. Pour autant, vous ne pensez pas que la Russie va s'effondrer, Ali Laïdi ?
Non, pas du tout. D'abord, d'une part, parce que la Russie a anticipé ce genre de problématique. Rappelons qu'elle est sous sanction depuis 2014 suite aux événements sur le Donbass et la prise de la Crimée, et que les sanctions de 2014, loin de l'affaiblir, au contraire, lui ont permis, dans certains secteurs, notamment les secteurs agricoles, de retrouver une certaine autonomie. Donc les sanctions, pour l'heure, je ne crois pas que c'est ce qui va permettre forcer Poutine à trouver une solution politique à la crise. D'ailleurs, vous avez vu que très récemment, la ministre des Armées ainsi que le chef d'état-major des armées a prévenu qu'il ne connaissait pas l'imprévisibilité des réactions du président Poutine par rapport au fait que, selon leur analyse, il n'a pas obtenu les résultats exacts sur le terrain qu'il avait prévu. Donc, c'est pas vraiment les sanctions qui vont le forcer, encore moins celles sur ses amis oligarques qui vont le forcer à revenir à la table des négociations.
Pendant que la Russie est empêchée de faire du commerce avec nous, elle continue de faire du commerce avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique ?
Bien sûr, hein, il suffit de reprendre l'ensemble des protestations dans le monde, vous verrez que 17 pays d'Afrique ont été plutôt discrets par rapport aux condamnations. Vous verrez que l'Asie, elle n'a pas du tout envie de se mêler directement de ce conflit. Idem du côté de l'Amérique du Sud, si même, évidemment, il y a des dénonciations de l'invasion. Mais pour autant, on a plutôt le sentiment que cette histoire, c'est une histoire entre l'Ukraine, la Russie, l'Europe et les États-Unis pour l'instant. Donc, si ça continue comme ça, si la perspective des sanctions vise vraiment à détruire l'économie russe, évidemment que l'économie russe et la Russie en général va se retourner vers la Chine avec une profondeur historique sur l'Asie. Et donc, en effet, on va créer un bloc qui sera très fort, puisque un bloc Pékin Moscou en Asie, c'est un bloc qui risque d'être assez puissant. Et du coup, ça va aller à l'encontre même de la stratégie américaine qui était de pivoter sur l'Asie Pacifique. Si ce pivot se fait avec en face de la Chine et la Russie, bah, ça risque d'être une autre affaire.
Alors justement, la Chine avec laquelle les États-Unis sont en guerre commerciale depuis un bon moment déjà, voyant ce qui se passe pour la Russie, les réserves d'argent à l'étranger bloquées, les avoirs saisis, les Chinois vont-ils laisser leur argent dans les réserves américaines en dollars alors que cet argent pourrait être bloqué en cas de conflit? Est-ce qu'ils ne sont pas tentés en ce moment de retirer leur argent?
Alors, pas pour l'instant, c'est pas ce qu'on constate sur les mouvements de marché. Ce qu'on constate plutôt, c'est, alors non pas un double discours, mais un positionnement très ambivalent de nos amis chinois qui consiste à ne pas dénoncer fermement l'invasion de l'Ukraine, tout en disant qu'il faut respecter la souveraineté des pays et donc de l'Ukraine, et en même temps discrètement demander aux entreprises chinoises de bien vérifier si elles sont en relation avec des entreprises russes qui pourraient les emmener éventuellement devant des tribunaux européens ou des tribunaux américains, ce qui serait encore beaucoup plus compliqué sur la base des sanctions qui ont été prises récemment. Donc la Chine n'a aucun intérêt à retirer son argent pour l'instant dans bon du trésor des États-Unis. Elle se tirerait elle aussi une balle dans le pied. La Chine est attentive, elle observe et son positionnement, ce sera peut-être, sans doute, d'attendre peut-être l'acmé d'une crise pour jouer les bons services, les loyaux services, et essayer de trouver une solution entre Bruxelles, Washington et Moscou dans cette crise.
Les Allemands ont annoncé qu'ils allaient acheter des avions F-35 américains alors qu'ils sont partenaires dans l'avion européen.
Ouais, c'est ça qui est assez étrange. L'annonce très forte du chancelier Olaf Scholz il y a quelques jours de créer un fonds de 100 milliards d'euros pour l'armée allemande risque de se traduire par des achats de matériaux américains, donc pas du tout pour les intérêts de l'Europe, avec des F-35 qui sont les derniers nés des avions américains, donc le Nec plus Ultra, qui coûte extrêmement cher, plus de 150 millions d'euros l'unité. Mais en même temps, l'Allemagne promet qu'elle veut poursuivre le fameux programme de création du nouveau avion de chasse et drone européen, donc en gros la suite du Rafale. Donc il y a un positionnement allemand qui n'est pas très clair sur la création d'une Europe de la défense, qui soit pas une Europe de la défense contre l'OTAN, mais une Europe de la défense capable également d'une certaine autonomie stratégique et militaire en cas de conflit comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc il va y avoir beaucoup de questions sans doute posées par Paris à Berlin sur la stratégie d'investissement des Allemands.
Vous êtes dernière question, il nous reste très peu de temps, Ali Laïdi. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en tant que chercheur en ce moment sur cette guerre? Vous êtes attentif à quoi?
Moi, je suis attentif au débordement des sanctions, à la ligne de crête qu'il y a entre sanctions et guerre économique, parce qu'à partir du moment où on entrerait en guerre économique, alors on donnerait un argument très important à la Russie pour entrer aussi elle en guerre économique. Et on sait tous ce que donnent les guerres économiques. L'histoire nous l'a toujours appris avant 14-18, avant 39-45. Ça donne évidemment des guerres réelles.
Merci Ali Laïdi. Je renvoie à votre livre « Histoire mondiale de la guerre économique », un livre qui est maintenant édité en poche. On se retrouve dans un instant avec Nicolas Bouzou.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Dans la matinale d'Europe 1, vous décryptez l'économie et vous venez de faire paraître un livre intitulé « Pour un libéralisme populaire » aux éditions de l'Observatoire. Vous avez donc l'honnêteté de reconnaître qu'un économiste n'est pas neutre puisque vous militez pour ce que vous appelez un libéralisme populaire. Alors sachant que le libéralisme en France n'est pas franchement populaire,
c'est vrai.
Qu'est-ce que vous appelez un libéralisme populaire?
Mais c'est quand même la tradition libérale française. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, le libéralisme français, c'est un libéralisme universaliste. C'est un libéralisme qui est très tourné vers la question sociale et vers les défenses du plus fragile. En fait, toutes les grandes lois sociales du 19e siècle, elles ont été portées ou défendues par des parlementaires ou par des ministres libéraux. Donc il y a quand même quelque chose de très fort, je trouve, dans notre histoire, qui est l'inverse d'ailleurs de ce que l'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est la loi du plus fort, le libéralisme à la française, c'est le libéralisme qui défend le plus fragile.
Mais le libéralisme populaire.
Oui, alors le libéralisme populaire, c'est au fond un slogan politique, c'est-à-dire que je voudrais faire comprendre que le libéralisme peut bénéficier au plus grand nombre, et ce que j'essaie de défendre dans ce livre, ce sont des choses très, très concrètes au fond. Quand par exemple je défends une libéralisation de l'actionnariat salarié, en fait, c'est très concret, c'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que la plus grande partie des salariés français puissent toucher des dividendes des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Vous voyez, donc ça, c'est une proposition qui est libérale. Hein. Il s'agit de libéraliser quelque chose. Et en même temps, c'est populaire parce qu'il s'agit de donner au plus grand nombre l'accès à des ressources auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui.
Le problème dans un pays comme le nôtre, c'est comment faire vivre ensemble des personnes qui ont des intérêts, des points de vue non seulement différents, mais carrément contradictoires et qui en plus le savent. Comment protéger les faibles contre les forts, les petits contre les puissants, mais aussi l'individu contre l'État ou les riches contre les pauvres?
Exactement, mais ça c'est la force de la démocratie libérale, c'est que justement c'est sans doute le seul système qui permet de faire vivre ces intérêts qui sont des intérêts contradictoires. Vous n'avez aucun autre système. Et certainement pas les systèmes qui sont basés sur des doctrines qui sont des utopies. Ces systèmes-là ne permettent pas de faire vivre ensemble des intérêts qui sont contradictoires. C'était tout le problème du marxisme. Au fond, c'est que le marxisme vous dit il y a une contradiction et cette contradiction, elle ne se résout que par le conflit. Et le libéralisme vous dit quelque chose de complètement différent. Il vous dit, Frédéric Taddeï et moi, Nicolas Bouzou, on a des très gros désaccords, sans doute. Hein, c'est un procès d'intention que je vous fais, mais il y a forcément des sujets sur lesquels on est en contradiction. Mais l'organisation de la société fait que, voilà, vous menez votre vie, je vis la mienne, et on peut se disputer, mais enfin, ça se passe comme ça. Voyez, oui, et là, on vit dans une société relativement apaisée.
Là, c'est au niveau des idées. Mais en revanche, parfois, ouais, quand les intérêts économiques sont contradictoires, c'est plus compliqué.
Non, c'est plus compliqué, mais il y a toujours moyen de faire évoluer les choses. Il y a toujours moyen de résoudre les conflits. C'est ce que Karl Popper, qui est l'une des figures tutélaires pour moi du libéralisme, même s'il n'était pas français, mais appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une réversibilité dans la démocratie. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, là encore. Le président de la République a supprimé en début de quinquennat l'impôt sur la fortune. Vous voyez bien que ça ne nous empêche pas d'avoir des débats très vifs sur l'impôt sur la fortune. Et un grand nombre de candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, proposent de rétablir l'impôt sur la fortune. Et s'ils sont élus, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'ils le rétabliront. Vous voyez ?
Mais l'impôt sur la fortune n'a pas vraiment été supprimé.
On en a enlevé une grande partie quand même.
On a laissé tout ce qui concerne l'immobilier.
Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dans une démocratie libérale comme la nôtre, le débat et la réversibilité sur un grand nombre de sujets, pas surtout, mais sur un grand nombre de sujets existent. Et donc, c'est conflictuel parce que moi, j'en ai fait des débats sur l'ISF, donc c'est un peu viril, vous voyez ? Mais c'est cette conflictualité qui permet in fine à la société d'être apaisée.
Nicolas Bouzou, à votre avis, va-t-il falloir sacrifier l'économie et le bien-être des citoyens sur l'autel de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Alors, on l'a déjà fait deux fois, sacrifier l'économie et le bien-être matériel. En tout cas, l'ABC, on l'a fait au début de la crise Covid, quand on a décidé qu'il fallait arrêter l'économie, une grande partie de l'économie, pour protéger les gens, pour protéger la santé des gens. Et je voudrais vous dire qu'on est en train de le faire en ce moment et que je pense même qu'on sous-estime en fait la mesure dans laquelle on est en train de payer un coût ce qui, à mon avis, est complètement justifié. Moi, je soutiens les sanctions, si vous voulez.
Mais ces sanctions contre la Russie,
bien évidemment, mais elles vont avoir un coût pour tous les Occidentaux, sous forme d'inflation, pour l'essentiel. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas l'économie qui domine. Hein. On met l'économie au service de la défense d'un idéal. Et donc, on fera quelque chose de cet ordre. On commence déjà à faire quelque chose de cet ordre avec le réchauffement climatique. Quand, par exemple, moi, je suis assez sensible à l'idée, je suis même très sensible à l'idée, selon laquelle c'est intéressant de diminuer la température chez nous en ce moment, hein, surtout si on est chauffé au gaz. On la diminue de, disons, on la met sur 17 degrés. Voyez, alors ça, c'est quelque chose qui est assez puissant. Beaucoup de gens se moquent de cette idée. En fait, elle est très puissante du point de vue des sanctions contre la Russie, mais elle est aussi assez puissante du point de vue de la sobriété énergétique.
Est-ce que la mondialisation des échanges va survivre à la fois à la crise environnementale, à la pandémie de Covid et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?
Oui, elle va survivre parce qu'elle a apporté énormément, en fait, parce que cette mondialisation des échanges, elle fait partie de notre civilisation. Je prends cet exemple. Alors moi, j'adore les avocados toast, par exemple. C'est un peu, je suis pas bobo, mais c'est un peu un truc de bobo. Hein,
il
mais
va
bon.
Falloir expliquer.
Mais alors, les avocados toast, bah, c'est des espèces de sandwichs très sophistiqués avec des avocats qui, en général, viennent du Pérou. Mais c'est pas pour prendre mon exemple. Je veux dire, on est très nombreux. On est très nombreux aujourd'hui. On est très nombreux à avoir des goûts culinaires qui sont des goûts un peu internationaux, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment un acquis extraordinaire de notre civilisation. Et la vérité, c'est que les gens ont envie de vivre avec ça. Donc non, on ne va pas remettre en cause la mondialisation qui nous apporte énormément. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à l'âge adulte de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une taxe carbone qui va freiner un peu les échanges. On est en train d'isoler la Russie et peut-être même, on va voir ce qui se passe ces prochains jours, mais de se couper énergétiquement de la Russie. Donc ça restreint les échanges. On a globalement au niveau mondial une régionalisation des échanges. Donc on ne tourne pas le dos à la mondialisation, mais on y met plus de friction. Mais Frédéric Taddeï, c'est très lié à votre question précédente. C'est-à-dire qu'on le fait, en fait, pas pour des raisons économiques. Hein, on le fait pour des raisons là, qui sont d'ordre géopolitique ou qui sont des raisons d'ordre environnemental. Donc ça montre bien que notre modernité libérale, ben, en fait, elle est moins matérialiste que ce que l'on a bien voulu dire depuis longtemps.
On fait une pause, Nicolas, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Nicolas Bouzou qui publie « Pour un libéralisme populaire » aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que la France et l'Europe en général peut se réindustrialiser sans prendre des mesures anti-libérales ?
Non, mais alors là, moi je suis très clair. Moi, mon libéralisme, c'est un libéralisme qui augmente les libertés objectives. C'est-à-dire que si l'État intervient et si ça permet de donner des opportunités aux gens, pour moi, c'est une politique libérale. J'ai été par exemple très favorable au pass sanitaire. Vous voyez, donc je me suis fâché avec beaucoup de libéraux qui m'ont dit mais c'est scandaleux, c'est une mesure liberticide, mais j'avais considéré que dans les faits, en fait, elle augmentait la liberté. Donc la politique industrielle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de mettre en place une politique de réindustrialisation. Alors, en fait, on est en train de le faire. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques, mais le plan France Relance, enfin, il y a tout un tas de choses, mais qui sont des interventions de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on aide les entreprises, pour le dire très clairement, à se réindustrialiser. Et en tant que libéral, je suis pour, parce que je pense que la réindustrialisation est quelque chose qui, dans pas mal de territoires en France, est susceptible d'offrir davantage de liberté objective aux gens. Donc je suis pour au nom du libéralisme.
Mais au point de dicter aux entreprises leur relocalisation, par exemple ?
Non, pas du tout. Ça, je suis contre, parce qu'en plus, je pense que c'est inefficace. C'est-à-dire que je pense que dire à un sous-traitant automobile « vous allez vous remettre en Alsace parce que c'est bon pour le secteur industriel en Alsace », le juge de paix, c'est le consommateur. Si ça augmente les coûts, si ça augmente les prix, si le consommateur ne peut pas se payer les voitures, cette relocalisation, elle aurait été faite en pure perte. Donc ça, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Mais la politique industrielle qui vise à encourager les entreprises quitte à les aider financièrement, ça, oui, je trouve ça bien.
Et le secteur de la santé qui s'est révélé stratégique ces deux dernières années, est-ce qu'il doit être confié au marché ?
Écoutez, il est en partie confié au marché, il est très régulé et force est de constater que ça a formidablement bien marché. Regardez avec quelle efficacité on a été capable de mettre sur le marché des vaccins en Occident qui sont pas parfaits, mais qui quand même nous ont énormément aidés pendant cette crise. Et alors ça, c'est passionnant parce que vous voyez...
Avec
cette
beaucoup d'argent de l'État,
voilà,
quand même.
Mais il y a de l'argent de l'État, mais c'est pas de l'économie dirigée. C'est-à-dire qu'au début, vous avez... des entreprises, des centres de recherche, publics, privés d'ailleurs, qui se sont mis à réfléchir, qui se sont dit, voilà, quelle est la bonne stratégie thérapeutique pour essayer de faire ces vaccins. Donc vous avez quand même au départ la liberté de penser, la liberté d'innover, la liberté de chercher, telle qu'elle est un acquis de notre civilisation depuis la Renaissance. Hein. Et c'est ça ce qui a permis d'être très efficace. Et après, l'État, il aide, il encourage, il régule, et ça a en fait incroyablement bien fonctionné. Donc faut pas tourner le dos à ça. Voyez, moi, ce que je veux, c'est vraiment défendre ce système. Parce que c'est facile de le critiquer. Hein, mais en fait, moi, je trouve qu'il... Allez, je vais paraphraser Churchill, parce que cette phrase est quand même assez extraordinaire. La démocratie libérale, c'est le pire des systèmes, mais à l'exception de tous les autres.
Nicolas Bouzou, votre livre s'intitule « Pour un libéralisme populaire ». Est-ce que le capitalisme peut être populaire ?
Alors oui, bien sûr, le capitalisme peut être populaire. Je reprends l'exemple de l'actionnariat salarié. Si vous donnez des actions de leur entreprise à tous les salariés, il sera populaire. Mais le capitalisme et le libéralisme, ce n'est pas du tout la même chose. La Chine ou le Vietnam ou la Thaïlande sont des pays capitalistes, sans aucun doute, et ce ne sont pas des pays libéraux. C'est-à-dire que le libéralisme, ça va très au-delà du capitalisme. Le capitalisme, c'est une doctrine économique. J'y adhère absolument, je pense que c'est la plus efficace pour augmenter le bien-être des gens, mais de mon point de vue, c'est complètement insuffisant. Moi, je suis un libéral intégral, c'est-à-dire la liberté très au-delà de la liberté économique.
Est-ce que la dette, qui a encore augmenté avec les crises du Covid, hypothèque notre avenir ?
Elle va encore augmenter de toute façon, puisque là, on a coup sur coup deux crises extrêmement graves. Les crises les plus graves pour une société, c'est les pandémies et les conflits. On a les deux. Enfin, on n'est pas directement en conflit, mais on est quand même, d'une certaine façon, partie prenante. Donc, ça va demander beaucoup d'argent public. On va avoir des dépenses militaires qui vont augmenter. Et puis, il y a tout le reste, hein, parce qu'on va avoir les dépenses de santé qui vont augmenter, les dépenses d'autonomie, les dépenses de sécurité intérieure, la justice, l'éducation. Donc, on va avoir une super dépense ces prochaines années. Alors, pour répondre à votre question, ce n'est pas nécessairement un problème à partir du moment où on a une super efficacité de l'État. Et là, par contre, on n'y est pas. Alors, on fait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de campagne présidentielle. Enfin, je suis un peu méchant, mais elle ne rentre pas beaucoup dans les détails. Et c'est normal, parce qu'on a d'autres problèmes. Mais cette question de l'efficacité de l'État, elle devrait vraiment être au centre, hein, de ce dont on pourrait discuter en ce moment si on avait une campagne présidentielle un peu normale.
Mais justement, à propos de l'efficacité de l'État, le marché est mondial,
oui.
La démocratie est nationale. Est-ce que face au marché, mais aussi aux GAFAM, l'État, qui est censé représenter l'intérêt général, peut encore rester compétitif ?
Ouais, mais il a du mal. Alors, l'exemple des GAFAM est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de régulation des GAFAM et que c'est compliqué partout. Alors, les Chinois essaient de le faire et ils ne le font pas vraiment dans le cadre d'un état de droit. C'est-à-dire qu'ils cassent les entreprises un peu comme ça et puis ils peuvent mettre des dirigeants en résidence surveillée. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a de gros débats sur ce qu'on appelle l'antitrust, c'est-à-dire, en effet, au fond, réduire un peu la taille des GAFAM. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué intellectuellement. Donc, ce n'est pas un problème moral, en fait. Là, on est dans... ces entreprises ont des business models qui sont des business models nouveaux. Ça demande un investissement intellectuel qui est très lourd. Et les États ne sont pas nécessairement armés pour lutter à armes égales face aux GAFAM qui, eux, ont des ressources financières qui sont quasiment illimitées. Donc là, il y a une vraie...
Et au-delà de ça, le marché est mondial et la démocratie, elle, est nationale.
En plus, le marché est mondial, mais vous voyez bien que, regardez, sur les questions fiscales, par exemple, on a eu, il y a quelques mois, alors on a l'impression que c'était il y a 15 ans, au rythme où vont les choses et tout le monde l'a oublié, mais on a eu un accord très important au niveau de l'OCDE, donc ça concerne une centaine de pays, de coordination de la taxation des entreprises multinationales. Donc en fait, on voit bien que les États, quand même, commencent à comprendre et à s'organiser et à essayer de mettre en place des mécanismes de régulation économique à un niveau qui est un niveau supranational. Donc vous voyez, ça peut se faire. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment... Alors je reviens à mon obsession, c'est le multilatéralisme qui lui aussi quand même est un avatar de notre civilisation et de l'état de droit.
Merci Nicolas
Bouzou.
Pour un libéralisme populaire, c'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On va maintenant parler de la pilule. Il n'y a pas encore eu de livre sur l'histoire de la pilule. Voici le premier.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Myriam Chopin.
Bonjour.
Vous êtes historienne et avec Olivier Faron, vous publiez « Histoire de la pilule » chez Passé Composé. Alors la pilule, c'est vrai que rarement quelque chose d'aussi minuscule a produit d'aussi grands changements.
Oui, c'est vrai. C'est un tout petit objet, et qui a produit des changements incroyables, une libération pour les femmes incroyable, dont Yvette Roudy dit c'est la révolution. Et c'est vrai que c'est la révolution, cette pilule qui, à partir de 1970, je dis 1970, parce qu'à partir de 1970, c'est le mouvement de libération des femmes, donc le MLF, et ce qui, dans les premières revendications, c'est vraiment la contraception et la pilule en premier que les femmes revendiquent.
Françoise Giroud, elle parle d'un grand tournant, le moment inédit dans l'histoire de l'humanité où les femmes ont commencé à contrôler leur fécondité au lieu de la subir.
Oui, au lieu de la subir. Et d'ailleurs, Michel Perrault, la grande historienne Michel Perrault, dit au fond, les femmes sont sorties du silence à ce moment-là. Elles sont sorties du silence dans un cri. Notre corps nous-mêmes, notre corps nous appartient. Et ça, quand même, c'est grâce à la pilule.
Il y a, dans plusieurs sondages, les femmes font de la pilule l'événement qui a le plus changé leur vie avant le droit de vote.
Ah, je crois que c'est pas faux. Moi, je vais dire aussi que c'est vrai, sans doute, que la pilule a changé plus leur vie, peut-être, que le droit de vote. Alors, le droit de vote est absolument essentiel. Mais c'est vrai que la pilule a changé leur vie parce qu'elles sont devenues sujets, véritablement sujets.
Ça leur a permis de rendre leur maternité heureuse. Tout à coup, les grossesses non désirées ont commencé à disparaître. Et en même temps, on est passé d'un taux de plus de 2,5 enfants par femme à moins de 2. Hein.
Oui, mais effectivement, les femmes les enfants qu'elles voulaient. Et donc, peut-être moins d'enfants, justement, moins subir, moins... et puis, peut-être être autre chose que des mères. Donc, fatalement, pour un pays qui est très nataliste comme la France, fatalement, ça a un aspect un peu négatif, oui.
Vous rappelez une loi qu'on a un peu oubliée, la loi de 1920, à l'époque où on veut repeupler la France après l'hécatombe de la guerre de 14, la loi de 1920 interdit la diffusion de la propagande en faveur de la contraception. C'est interdit en France.
Cette loi, en fait, elle est dramatique. 1920, c'est une loi dramatique parce que finalement, elle pousse les femmes. Et la chanson d'Antoine qui raconte elle doit être en 1967, juste avant 68, parle de cette femme qui se suicide parce que avec ses enfants, parce qu'elle n'en peut plus d'être assaillie par ses maternités. Et c'est ce qui ressort de cette loi, c'est quand même l'aspect dramatique de ce qu'elle a pu produire, oui, chez les femmes, oui.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que l'on n'a pas retenu le nom de celui qui a inventé la pilule, le médecin et biologiste américain Gregory Pincus. C'est en 1956. C'est étonnant quand même qu'on ne connaît pas son nom.
Non, c'est vrai. Alors, un peu plus aussi celui de Lucien Neuwirth, hein, parce que Lucien Neuwirth,
qui a fait voter
la loi en 1967, qui est allé trouver le général de Gaulle pour lui dire voilà, c'est important, il y a trop de femmes qui meurent. Et à ce moment-là, c'est vrai que le général de Gaulle aurait été sensible à ça. Mais c'est vrai, Gregory Pincus, alors que là, il y a vraiment un personnage exceptionnel, Gregory Pincus, avec Catherine McCormick qui va financer toutes ses recherches. Et voilà,
des
gens
et
Margaret,
hein.
Voilà, absolument l'héritière des tracteurs, et Margaret Sanger qui va être cette anarchiste infirmière et qui va fonder le premier planning familial, on peut dire, aux États-Unis.
On a oublié également que quand elle est mise en vente pour la première fois en juin 1957 aux États-Unis, elle est réservée uniquement aux femmes mariées.
Oui, uniquement aux femmes mariées, mais cette question des couples, elle va aussi être en France aussi très longtemps. Ça va être les couples, ça va être les consultations de couples.
De même, avec la loi Neuwirth en 1967, pour prendre la pilule, il faut avoir l'autorisation des parents. Les mineurs qui, à ce moment-là, sont mineurs, on est encore mineurs jusqu'à 21 ans, hein, mais il faut l'autorisation des parents. Et elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Il faudra attendre 7 ans.
Hein. Oui, et donc 74, c'est, on peut dire que Simone Veil, et encore Simone Veil, là encore, va fourbir ses armes pour l'avortement. En mettant donc le libre choix de la contraception. Le libre choix. Donc on n'a plus l'autorisation, on n'a plus besoin de l'autorisation de ses parents entre 18 et 21 ans. Hein.
Le mot pilule faisait encore rêver dans les années 60. C'était l'époque de la chimie triomphante. Hein.
Oui, c'est l'époque de la chimie triomphante et c'est une espèce de croyance absolue dans la pilule qui va totalement changer le monde. on n'en est plus tout à fait là aujourd'hui.
Parce qu'en effet, d'abord, les Françaises ont plébiscité la pilule hein, dans les années 60, 70, 80. Près de 46% des femmes en âge de procréer la prenaient encore en l'an 2000. C'est descendu à 37%. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, c'est descendu à 37%, c'est vrai, puisque pratiquement 50% des femmes prenaient encore en 2000 la pilule. Et c'est ce qui s'est passé. Ce sont des accidents, bien sûr. Et puis, on va dire que c'est dans l'air du temps. Il y a une espèce de méfiance terrible vis-à-vis de la médecine. On l'a vu. Et je fais ce rapprochement un peu rapide, peut-être, avec les vaccins. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la médecine. Et toute une jeunesse qui se méfie, qui est devenue hormonophobe, on peut dire, hein, et qui a fait baisser considérablement, oui, la prise de la pilule et la confiance aussi.
Il y a eu aussi beaucoup d'accidents.
Il y a eu des accidents. Il y a eu le procès de Marion Lara en 2013 hein, contre Bayer, parce qu'elle a été lourdement handicapée à la suite de la prise d'une pilule de la troisième génération. Troisième génération que Marisol Touraine a beaucoup fait pour justement montrer aussi les difficultés, enfin les problèmes que pouvait causer cette pilule.
Et Marisol en la Touraine, déremboursant, qui était ministre
à ce moment-là, en déremboursant justement cette pilule de troisième génération, qui a créé, oui, c'est vrai, des AVC, des thromboses. Sur 10 000 femmes qui prenaient la pilule à ce moment-là, on a pu évaluer une dizaine de femmes qui avaient effectivement été atteintes de thrombose. Et puis, il y a aussi l'espèce d'envie d'agir pour l'environnement qui joue beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé de Françoise Dobone dans le féminisme et de l'écoféminisme pendant très longtemps. On en reparle aujourd'hui ?
Myriam Chopin, ce sera quoi l'avenir à ce moment-là ? On va revenir à une contraception saine, naturelle, non médicalisée, c'est-à-dire 60 ans en arrière en fait. C'est comme se débrouillaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et nos arrière-arrière-grands-mères.
Oui, on peut déplorer qu'il y ait une mémoire qui ne s'est pas faite, enfin en tout cas une transmission et qu'il y ait une mémoire qui n'existe plus, enfin des luttes des femmes. Et est-ce qu'on va retourner ? Oui, c'est quand on a interrogé des jeunes femmes qui sont à peu près 35 jeunes femmes entre 18 et 45 ans, elles nous disent oui, nous, on ne veut plus de la pilule et on va revenir à pourquoi pas, méthode Ogino, pourquoi pas. Et c'est vrai que, voilà, on est quand même un peu. Voilà, on est sans doute avec nos co-auteurs d'une autre génération.
Et puis vous êtes historien, hein ? Vous n'êtes pas là pour juger. Histoire de la pilule, c'est signé Myriam Chopin et Olivier Faron et ça vient de sortir chez Passé Composé. C'est la première fois qu'on raconte l'histoire de la pilule. Hein. Un événement pourtant considérable, une véritable révolution. C'est le premier livre qui lui est consacré.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Il y aura le réalisateur Jean-Jacques Hano qui sort mercredi Notre-Dame brûle, son nouveau film. Il va nous raconter la vérité sur le sauvetage de la cathédrale. C'est encore plus dingue que ce que l'on croit.